ou un dilettant. C'est le matin. Il fait frais. L'Aveyron résonne en bas. Et une légère brume, liée, vapeur d'eau, remonte de la cascade. Les rayons du soleil se reflètent dans la rivière. C'est calme. Nous sommes mardi 27 juillet à la cuisine. Et nous allons ce soir entamer la première dégustation d'eau jamais organisée à la radio. Il y en aura donc 5, les dégustations d'eau. C'est une manière de démarrer un dialogue avec les intervenants, les personnes qui seront avec moi. C'est une manière de découvrir des eaux, puisque j'ai sélectionné un certain nombre d'eaux, des eaux minérales, des eaux de source. Puis il y aura d'autres formes d'eau qu'on viendra goûter. Voilà, ça va se dérouler pendant 5 jours, le soir, soit à 18h ce soir, un petit peu en retard, c'est vrai, à 19h dans les jours qui viennent et à 19h le dernier jour. Ce soir, l'onde dilettante est consacrée aux eaux de terroir. Les eaux de terroir, ce sont... on pourrait presque dire que c'est une mode aujourd'hui, les eaux de terroir. On avait de l'eau du robinet pendant longtemps, puis on a eu des eaux minérales, des eaux de source. Les eaux de terroir, c'est de véritables eaux de source, mais qui sont liées à un territoire. Le terroir, vous le savez sans doute, le terroir, c'est un terme soi-disant qui serait uniquement français et qui consacrerait un lien entre l'homme et son territoire au travers, en général, de l'alimentation. On connaît les terroirs en particulier pour les vins, qui ont été les premiers avec les AOC, par exemple, les appellations d'origine contrôlée. On le connaît maintenant pour les aliments, on le connaîtra un jour, probablement, pour les eaux. Alors, pour en parler ce soir et les déguster, Mathieu a invité, la cuisine a invité deux personnes qui ont bien voulu se prêter au jeu, donc Sarah Van Uxem et Camille, bien sûr, de Toledo. Est-ce que c'est pour vous, Camille de Toledo et Sarah, est-ce que c'est pour vous quelque chose de nouveau? Vous pouvez prendre peut-être les micros.
Goûter des eaux.
Goûter des eaux, oui.
Et à la radio, les deux, oui, c'est nouveau.
C'est abîmé, oui.
Oui, enfin, de cette manière-là, en public, de goûter des eaux, c'est une première. Oui.
C'est une première?
Oui, je ne fais pas ça habituellement. Ah, on n'entend pas, c'est ça?
Non, on n'entend pas. Il est au max, apparemment. Donc,
Je disais donc que c'est nouveau. C'est mieux? Vous m'entendez mieux? Tu veux essayer?
Est-ce que c'est mieux?
Ouais, c'est mieux, non? Je crois que c'est mieux.
Non.
C'est pas assez? Ah, c'est déjà très près. Vous pouvez mettre plus fort? Donc, on va t'accompagner, on va voir. C'est une première.
Oui, alors aujourd'hui, c'est une journée quand même qui a été très chaude. Et donc, boire de l'eau, finalement, ça se justifie. Mais nous n'allons pas boire n'importe quelle eau. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, nous avons 3 eaux. Et nous allons commencer avec cette première eau qui est sur ma gauche. Je je pourrais presque, si j'avais vraiment été très, très méchant, faire une dégustation à l'aveugle, ce qui aurait permis de développer un imaginaire complètement débridé. Mais je vais quand même vous donner des indications sur cette première eau. Donc cette première eau, c'est une eau qui vient de Bagnères de Bigorre. Bagnères de Bigorre, c'est dans les Hautes-Pyrénées. C'est un lieu où il y a beaucoup de sources. Il y a une source tout particulièrement qui s'appelle la source Saint-Blaise, qui existe depuis plusieurs siècles vraisemblablement. Ils ont refait la source, c'est-à-dire ils ont refait le captage, ils ont refait également la fontaine en elle-même, en 1905. Donc jusqu'à 1905, c'était un cône de bois qui allait chercher l'eau au fond de la falaise et qui la ramenait. Le cône de bois, il était apparemment, ça devait être très joli, il était noyé dans l'argile. Un marbrier a proposé de refaire cette fontaine en 1905, donc maintenant c'est une fontaine en marbre, et ils ont découvert que le captage était beaucoup plus abondant qu'auparavant. Alors aujourd'hui, cette eau, elle est recherchée par de nombreuses personnes. Les gens viennent quotidiennement pour remplir des bonbonnes, parce qu'elle a une particularité. C'est un élixir de longue vie. Donc, est-ce que ça sera une eau de terroir, un élixir de longue vie? Enfin, on va pouvoir discuter de tout ça, mais je vous propose donc de goûter, je vais vous servir. Alors bien sûr, la torture, c'est que comme vous avez très soif, vous avez envie de boire d'un coup. Alors normalement, dans une dégustation, d'abord il y a la vue, on regarde si. Hein. Est-ce que cette eau est trouble? Est-ce qu'elle est claire? Est-ce qu'elle est cristalline? Qu'est-ce que vous en pensez?
Vous verrez ça.
Le verre est assez brumeux, l'eau, on ne sait pas du coup. Ah, je vais me servir également, parce qu'après, ils vont penser que je cherche à les empoisonner. Non, vous pouvez. Alors après, vous pouvez sentir, peut-être, sentir. Il y a un nez. Il y a un nez, effectivement,
mais c'est assez...
presque sucré.
Mais c'est un peu un supplice pour celles et ceux qui regardent, je pense.
Oui, alors si des gens veulent goûter,
l'élixir
on a
de
laissé
longue
quelques
vie,
verres.
Que tout le monde... Non, en fait, c'est mieux une bière, finalement, peut-être. Ou... Une bière ou de vin blanc. Mais l'élixir de longue vie, quand même, ça a un titre qui donne envie. Ou pas, d'ailleurs. L'élixir de courte vie.
Allez, goûtons.
Oui, c'est framboise. Hein. C'est une des framboises. Tu les as laissées dans un à côté d'un framboisier.
On pourrait penser que, ou alors elle a été dans un peut-être dans une bouteille. Enfin, alors, peut-être que la personne qui est allée le chercher.
Il y a quelque chose de fruité.
Une eau sèche, non? Un peu sec.
Mmh. Alors elle est un petit peu en vin, on dit astringent. Astringent. Donc ça sèche les papilles.
J'ai le souvenir d'une poétesse qui avait travaillé un recueil qui s'appelait L'eau super liquide. C'était de l'eau plus liquide que l'eau. C'était une... Elle avait inventé ça en poésie. J'essayais de me représenter en lisant sa poésie ce que ça pouvait être une eau super liquide. Mais ça prenait plus la forme d'une rêverie d'enfant, d'une eau qui serait plus que. C'était un joli recueil. Elle s'appelle Cécile Ménardi, je crois. Tu la connais? Elle est poétesse, je crois qu'elle est, elle vit à Nice, il me semble, non?
Entre Paris, Nice et Rome. Hein.
Ah oui, c'est ça. Ouais. Eh ben, l'eau super liquide, c'est un recueil de ceci. Très joli recueil. Voilà, simplement. Donc là, je ne sais pas si elle est sèche, si elle est... Ça, je ne saurais pas dire. Mais c'est vraiment la première fois que je fais ça. La dernière fois que je l'ai vue, c'était dans un grand magasin et c'était pour... tester des... Qu'est-ce que vous pensez de ce découpe légumes, de ce...
Tu Tu avais goûté des eaux?
Non, non, je n'avais pas goûté des eaux. C'était plutôt sur ce mode de tester et commenter. Donc je ne sais pas ce qu'on doit faire en fait.
Donc là, là, c'est un élixir. Donc un élixir, il faut le savoir, ça vient de l'arabe et ça veut dire pierre philosophale. Ou plus tard, ça voudrait dire apparemment médicament également. Donc c'est une eau qui nous permet effectivement de...
D'aller mieux?
D'aller mieux, oui.
Bah, je te dirai dans les jours à venir, dans les semaines à venir.
Donc les eaux, quand même, c'est quelque chose qui est assez classique, de nous promettre monts et merveilles pour la santé.
Ouais, tu veux dire quelque chose?
Tu veux dire... Non. pas encore.
Non. Je peux vous raconter mon épisode à Lourdes.
Mais non. Oui.
Ouais. Parce... Je ne sais pas si vous avez déjà été à Lourdes. Quelqu'un a été à Lourdes ici? C'est assez... c'est très instructif. Ça m'a d'abord fait penser à un film de Fellini. De ce rapport entre le religieux, le paganisme... le fétichisme de la source. Et puis toute la ville est construite, enfin, circule autour de cette falaise miraculeuse, avec des gens qui viennent remplir leurs bouteilles, et puis la marque de l'Église, donc l'emprise du christianisme sur la source miraculeuse, parce qu'évidemment, si on parle de ce qui sauve, il faut immédiatement que ce soit sanctifié, si c'est sanctifié, il faut immédiatement que l'Église catholique y mette son nez, parce que ils ont le monopole de la bénédiction dans ce pays. Mais c'est un lieu assez fort. J'y avais été avec mon fils. Et j'avais pas été totalement indifférent à la qualité de cette eau. Après, je pourrais vous en parler un peu plus longuement, mais j'ai pas goûté de l'eau depuis ce temps-là.
J'ai pas goûté d'eau depuis ce temps-là.
Oui, si tu veux que je rebondisse sur ce à quoi ça me fait penser de goûter de l'eau divine. En fait, ça me fait penser à plusieurs des textes de Heidegger sur la chose. Et je trouve que j'ai fait ma thèse, moi, sur la chose, sur la notion de chose, mais en droit. Et donc, en fait, il y a des textes sur la cruche qui réunit finalement le quadriparti heideggerien. La terre, le ciel, les divins, justement, et les mortels. Comme si finalement, dans la cruche, et donc à travers finalement l'eau qui est dans la cruche et que nous goûtons aujourd'hui, il y avait une réunion des différents éléments qui participent du monde et de la terre. Et finalement, Heidegger nous dit que la cruche qui assemble le quadriparti, eh bien, finalement, c'est la chose. Et la chose, justement, la signe, ou la dink en vieux allemand, je le prononce sans doute très mal, eh bien, c'est justement l'affaire, le litige, le cas. Et donc, finalement, la chose en droit, au départ, la chose, ça signifie justement le litige, l'affaire. Donc, c'est comme si à travers, finalement, cette cruche et cette eau divine, eh bien, tu me ramenais aux sources originales du mot « chose » en droit.
Voilà. Wow. Magnifique. Alors, est-ce que vous avez terminé votre... Peut-être on va passer à la seconde. Donc là, la deuxième, c'est une eau potabilisée. Donc j'ai découvert que lorsqu'on marquait eau potable sur une fontaine ou sur un robinet, c'est en fait parce qu'elle a été traitée. Donc on peut tout à fait avoir des fontaines comme la première qui n'est pas une eau potabilisée, donc ça voudrait dire que ce n'est pas une eau potable. Pour autant, elle est quand même tout à fait buvable, elle est autorisée à la consommation. Celle-ci, elle a été potabilisée et c'est l'eau de la Barousse. Alors la Barousse... C'est également dans les Hautes-Pyrénées, à la limite de l'Ariège, de la Haute-Garonne, pardon. Et la vallée, en fait, elle a une particularité, comme toute cette zone, qui a énormément de sources, mais vraiment énormément. Donc quand l'eau descend des montagnes, elle arrive vers Lannemezan, et Lannemezan, on appelle les gens, les locaux, les habitants, disent que c'est comme une éponge. Et ensuite, on voit les rivières qui vont vers la Garonne et qui forment comme un cône, encore une fois, qui forment un cône qui va vers la Garonne. Alors cette eau-là, de la Barousse, c'est un peu particulier parce que habituellement, on ne pouvait la consommer que dans la vallée de la Barousse. Et en l'an 2000, donc, pas si longtemps que ça, l'eau elle a été captée et ils ont construit un pipeline, comme on dit dans le pétrole, un pipeline de 100 km pour pouvoir la distribuer dans un certain nombre de villes dans le Gers. Lombez, Saint-Matan, enfin, Villejourdain, voilà. Donc, je pensais à cette notion de terroir, je me disais, tiens, on peut tout à fait déplacer une eau, c'est l'eau de la Barousse, c'est pas l'eau du Gers, mais alors les gens sont très très contents dans le Gers, sont très contents de pouvoir avoir accès à cette eau-là. Parce que l'eau, globalement, dans le milieu agricole, l'eau, elle est de mauvaise qualité. Il y a beaucoup d'intrants, et ça fait que l'eau, il est difficile de la traiter. Et là, tous les gens de la région adorent boire cette eau-là, et se disent, là au moins, on va pas recevoir de pollution. On la goûte ? Vous avez compris le principe. La vue, bon, on l'a déjà fait. Hein, ça ressemble étrangement. Toujours aussi cristallin. Il n'y a pas de différence notable. Et moins odorante, oui, j'ai trouvé aussi. Tout à l'heure, elle avait particulièrement. On la boit. Alors, normalement, dans le milieu du vin, là, je vous donne un petit truc, une astuce, mais que vous connaissez certainement. Dans le milieu du vin, on fait une rétro-olfaction. C'est-à-dire qu'on ne va peut-être pas le faire, mais bon, je le fais pour vous faire plaisir. Donc ça s'appelle aussi le grumage et l'idée c'est d'amener de l'air, ça se fait pas tellement pour l'eau, ça se fait plus pour d'autres boissons, d'amener de l'air pour mieux sentir les goûts. Bon là franchement c'est pour le feu.
Elle est plus ordinaire.
Elle est plus ordinaire, oui. De tout à l'heure, ouais. Elle est plus souple. Elle doit être un peu chlorée normalement. Ils ont dû rajouter du chlore. On sent pas trop le chlore. Bon. Je vous propose de passer à la troisième peut-être. À moins que vous ayez. On peut passer à la troisième.
On prend la troisième alors.
Ah oui, bah oui, tu peux la jeter si vraiment t'as pas soin.
Comme pour une dégustation de moi.
Tu veux t'en occuper? Ah.
Sinon, je peux peut-être juste te faire un petit commentaire avant. Il se trouve que tout à l'heure, j'ai relu le premier article qui ouvre le code de l'environnement, l'article L110-1, et qui nous explique justement que l'eau fait partie avec les ressources naturelles et autres du patrimoine commun de la nation française. Et ensuite, on nous définit la diversité biologique comme une variabilité des organismes vivants. Et on a introduit la géodiversité. Et dans la géodiversité, il y a la diversité hydrologique, la diversité des eaux. Donc c'est comme si tu nous illustrais une dérivation aujourd'hui de la biodiversité à travers cette diversité des eaux.
Alors là, cette troisième eau, vous la connaissez tous, c'est de l'eau de Vittel. Donc ça vient des Vosges. Oh. Ah, Camille n'aime pas.
Oui, mais il aurait fallu que tu dises Vittel après. C'est pas là.
Ah oui, là on sent la minéralité, hein, clairement. Donc une eau minérale, bien évidemment, Vittel c'est une eau minérale. Alors je vous ai, au départ, je n'avais pas prévu de mettre cette eau, mais je me suis dit quand même c'est intéressant parce que Depuis 2020, Nestlé, donc, qui possède la source de Vittel, est en procès avec, avec un collectif. Il y a des ONG, il y a des collectivités, parce que, en fait, ils captent une quantité très importante d'eau. Tellement importante que les habitants, aujourd'hui, avec la réduction de la pluie, tellement importante, que les habitants n'ont plus accès à l'eau, en ont de moins en moins, et il faut aujourd'hui qu'ils procèdent à des travaux pour aller chercher de l'eau dans une autre vallée, dans d'autres endroits, et permettre aux habitants de continuer à recevoir une eau potable, du robinet, tout simplement. Donc ça représente des sommes relativement colossales. Nestlé est amené à participer, mais de manière assez réduite. C'est pas 50% de la somme. Donc c'est les collectivités qui, quelque part, mais je pense que tu nous en diras, tu pourras peut-être nous dire ce que ça t'évoque en termes de droit. C'est les collectivités qui risquent d'être amenées à payer parce que, à côté, une multinationale s'est arrogée la captation de la source de Vittel. Sarah, tu veux nous dire quelque chose ?
Alors, je ne travaille pas, moi, sur ce cas-là. Je connais effectivement des juristes, par exemple, comme Isabelle Dussan, qui travaille sur le cas de cette eau Vittel, me semble-t-il. Ce que ça m'évoque, là, c'est le fait qu'en Italie, dans la ville de Naples, ils ont beaucoup travaillé sur la notion de bien commun, de beni communi, et il y a eu tout un travail, justement, pour que les citoyens puissent se réapproprier l'eau et que l'eau soit véritablement considérée comme le bien commun des citoyens. Donc là, effectivement, ce que ça m'évoque, c'est que j'imagine que dans le cas que tu as en tête, que les juristes ont en fait plein de fondements juridiques à faire valoir, et notamment, peut-être d'abord, l'article 714 du Code civil, qui définit les choses communes comme des choses qui n'appartiennent à personne, mais dont l'usage est commun à tous. Et après, on a un alinéa 2 qui nous dit que les lois de police en règlent l'usage des choses communes. Et très classiquement, dans les choses communes, on met l'eau, l'air aussi, mais d'abord l'eau. Donc je pense que il y a déjà cette notion d'eau qui participe du patrimoine commun de la nation, donc du patrimoine commun. Il y a aussi l'eau comme chose commune. Donc je pense qu'en repartant à des grands principes fondamentaux, on devrait être à même de défendre cette appartenance des eaux d'abord aux citoyens de la commune. Puis il y a aussi des articles dans le Code civil qui permettent, même lorsque l'eau appartient à un propriétaire, je me demande si c'est pas l'article 640, mais il faudrait vérifier. Donc lorsque l'eau appartient à un propriétaire, enfin, qu'elle traverse son fond de terre, s'il y a à côté des habitants qui manquent d'eau, alors les habitants doivent avoir accès justement à cette eau. Donc on a des dispositions quand même dans le Code civil de 1804 qui permettent a priori de défendre finalement ce droit à tous de l'eau. Voilà, mais sur le cas particulier Vittel, je n'ai pas travaillé dessus. Voilà.
Camille, tu veux dire quelque chose ? Ça t'évoque quelque chose cette...
Non, ça fait le lien avec la conversation qu'on avait à l'issue de cet atelier. Et que dans une sorte de spéculation juridique que Sarah connaît bien mieux que moi, la personnalisation juridique des écosystèmes, on pourrait très très bien imaginer qu'en plus de redevenir chose commune, il y ait un droit qui soit payé à la source. C'est-à-dire que si la source ou la rivière devenait une personnalité juridique, il y aurait une reversion en fait de la valeur ajoutée de l'extraction de type eau minérale vers le commun naturel que serait une source. Donc ça donne une sorte de rêverie assez stimulante d'ailleurs d'une autre manière de fonctionner à partir de ce que on a d'ailleurs l'intention de travailler avec Sarah et Mathieu autour du travail du vivant. Qu'est-ce que c'est un vivant qui travaille ? L'eau étant la vie même, mais sans doute qualifiée par des scientifiques comme plutôt quelque chose de minéral, mais enfin, là, il y a aussi beaucoup à discuter. Parce qu'à mon avis, pour moi, l'eau est d'ailleurs la zone grise de l'animé et de l'inanimé. J'ai pas eu le temps, en fait, vraiment de... Je pensais... Enfin, je vis avec, avec cette question aquatique depuis ma gestation. Mais... Et elle a pris une importance particulière au cours des dernières années parce que, précisément, je cherche un élixir de vie. Parce que je cherche à guérir d'un certain nombre de choses qui sont difficiles à outrepasser, qui sont assez handicapantes. Mais il me semble que c'est en tout cas un lieu zone grise entre l'animé et l'inanimé. C'est quelque chose qui fait la liaison. Hier soir, je vous parlais d'une langue que j'estime un peu magique, qui est une langue archaïque, qui est l'hébreu. Mais le chaim et le maïm c'est l'eau, le chaim c'est la vie. Et il y a quelque chose qui, dans l'écriture même, ne se distingue que par un chet. Et qui a d'ailleurs une valeur numérique. Enfin, il y a tout un tas de ce qu'on appelle la gématria. Donc, on va lire tout un tas de choses dans ce simple déplacement. Et parfois, quand on dit qu'en déplaçant une lettre, on change le sort des choses, ben, quelque chose comme ça, tu changes une lettre. Et au lieu d'avoir du minéral, tu as de l'animé. Et je trouve qu'à une époque qui est celle, je crois, des sciences du vivant, où on s'interroge absolument sur cette sorte de frontière introuvable entre l'inanimé et l'animé, enfin comme si l'animé était dans l'inanimé, l'animé était source de vie. Je trouve que l'eau, c'est ça, quoi. C'est ce qui circule entre les deux, quoi. Je voulais surtout vous lire, en fait, une petite chose, parce que je me disais, en fait, en parlant d'eau, que ça me ramenait à ce grand écrivain qui est Gaston Bachelard, qui n'était pas seulement écrivain, mais qui était poète à ma manière. Donc j'ai juste trouvé très très vite avant, mais je trouvais ça bien de nous mettre sous... Parce qu'en fait, juste en regardant, je retrouvais donc cet essai sur l'eau et les rêves, et je ne me souvenais pas du sous-titre, mais c'est « Essai sur l'imaginaire de la matière ». Et c'est beau, en fait, un imaginaire de la matière. Et dans tout plein de discussions que j'ai pu avoir au cours des dernières années, en travaillant sur ces questions de l'eau, de la rivière, du fleuve, des droits des choses, des droits des écosystèmes, de ce que l'on considère comme chose, etc. Il me semble qu'il y a quelque chose qui se joue là d'un... Certains philosophes parlent d'un matérialisme réanimé. Moi, je parle parfois de réanimation. Il m'est même venu à l'esprit encore hier, parce que c'est mon cerveau, un peu comme ça, de matérialanimisme, quelque chose comme ça, qui met les deux ensemble. Et comme s'il fallait réanimer ce que notre droit, ce que nos conceptions philosophiques, ce que nos habitudes de pensée, ce que nous... eh bien, a conduit à réifier. Alors, donc, il y a cette phrase que je trouve très belle. Voilà. Je ne peux pas la faire mienne, parce que je n'ai pas... J'ai pas eu la même enfance. C'est juste, je pense que c'est l'ouverture ou pas, mais c'est comme sur un mode de récit. C'est près de l'eau que j'ai le mieux compris que la rêverie est un univers en émanation, un souffle odorant qui sort des choses par l'intermédiaire d'un rêveur. Si je veux étudier la vie des images de l'eau, il me faut donc rendre leur rôle dominant à la rivière et aux sources de mon pays. Et là, ça commence le récit. Je suis né dans un pays de ruisseaux et de rivières, dans un coin de champagne vallonné, dans le Valage, ainsi nommé à cause du grand nombre de ses vallons. La plus belle des demeures serait pour moi au creux d'un vallon, au bord d'une eau vive, dans l'ombre courte des saules et des osières. Et je trouve que c'était juste, en fait, pour cette conversation, parce que c'est sans doute pour moi, en tout cas, un des premiers de l'intérieur de l'histoire des sciences, Bachelard, qui a par ailleurs avait cette intelligence et cette sensibilité poétique immense, mais surtout qui a... peut-être pointé, peut-être avec un peu Bergson à la même époque, mais qui a pointé de l'intérieur de l'histoire des sciences cette réanimation des choses, ce besoin de remettre de la vie là où on avait mis de la mort ou de l'objet ou de l'objetisation. Et voilà ce que je peux déjà un peu vous dire, parce que ça m'évoque cette histoire de l'eau.
Merci, Camille. Peut-être on peut. J'avais quand même une question sur cette notion de propriété. Je sais bien que tu n'es pas spécialiste de l'eau, mais il y a quand même une étrangeté, enfin en tout cas à mon sens, de parler de propriété pour de l'eau qui est quelque chose qui est tout le temps en mouvement. c'est pas quelque chose qu'on a appliqué par exemple à l'air. Est-ce que l'air pourrait être une propriété?
C'est ça, ouais. Est-ce
que l'air pourrait être une propriété? Alors déjà, normalement, l'eau, elle est plutôt justement chose commune, chose qui n'appartient à personne. Par contre, après, le lit de l'eau, lui, peut appartenir à des personnes privées ou selon le cas. L'air aussi, a priori, est chose commune, donc il n'appartient à personne, ou tout au moins à personne en particulier. Mais pour l'air, comme pour l'eau, en effet, on a des mouvements, on pourrait dire, de privatisation. Après, ça dépend des lectures juridiques que l'on peut faire. Mais pour l'air, on a quand même les quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Et les quotas d'émissions de gaz à effet de serre, c'est en quelque sorte un droit de polluer l'air. Et un droit de polluer l'air, ça peut être vu comme une manière de privatiser des portions, finalement, de l'atmosphère ou de l'air. Là, en fait, je suis en train de citer Thierry Revet, qui considère que peut-être qu'en qualifiant, justement, en faisant entrer les quotas d'émissions de serre, et non pas de faire dans le droit, et bien peut-être qu'on jette justement à la corbeille l'air en tant que chose commune. Mais on peut aussi dire, et là je citerai une autre juriste que connaît bien Camille de Toledo, on peut aussi dire, en reprenant plutôt les propos de Marie-Angèle Hermite, que peut-être qu'à partir du moment où on commence à réglementer les quotas d'émissions de gaz à effet de serre, et donc le droit finalement de polluer l'air, on fait véritablement entrer l'air dans la sphère juridique, sur la scène juridique, et à ce moment-là, peut-être que l'air, en effet, devient véritablement une chose commune. Parce que tout à l'heure, je voulais citer l'article 714 du Code civil, sauf erreur de ma part, je me trompais tout à fait dans les chiffres, qui dispose, donc je répète, les choses communes sont des choses donc, qui n'appartiennent à personne, peut-être à personne en particulier, dont l'usage est commun à tous, et ensuite on a un article, un alinéa 2, qui nous dit « des lois de police en règlent l'usage ». Et donc peut-être qu'à partir du moment où on règle l'usage de l'air, et ça serait sans doute aussi juste de l'eau, peut-être qu'en effet, on fait rentrer finalement les eaux, comme l'air, dans le domaine des choses communes, des choses qui n'appartiennent à personne, ou tout au moins à personne en particulier. Ce que je peux dire de ce parallèle entre l'air et l'eau, et puis sinon, évidemment, Camille ne vous en a pas parlé, mais il travaille quand même sur le Parlement de la Loire. Et ça serait peut-être dommage de ne rien en dire, parce que dans toutes ces hypothèses, finalement, ces exemples d'attribution de droit à des choses de la nature, en tout cas de personnification de la nature, dans un certain nombre de cas, c'est quand même l'eau qui est au centre. Je pense au fleuve Whanganui, en Nouvelle-Zélande, qui a été personnifié. On a aussi le cas donc, en Inde, même si c'est difficile, parce qu'on ne sait pas exactement quel est l'état du droit positif, c'est-à-dire l'état du droit en vigueur, le Gange. Et son affluent, on a le lac Erie aux États-Unis. Donc ça veut dire que dans un certain nombre de personnifications de la nature ou de ses éléments, d'attribution de droit, finalement ça passe par l'eau. Enfin, c'est l'eau qui est au centre. On a aussi des forêts, hein, mais on a un certain nombre de cas. C'est peut-être pas un hasard.
Merci, Sarah. Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, les différents cas cités, ce sont des cas où, disons, où la codépendance, la solidarité avec la chose devient flagrante et apparente et devient une question de vie ou de mort. C'est peut-être moins vrai pour le cas néo-zélandais, qui est plus une affaire entre des populations aborigènes et la couronne britannique. Mais pour l'Atrato, par exemple, en Colombie, ou le lac Erie, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans un comité plus restreint, c'est que les demandes en justice pour donner une personnalité juridique à l'Atrato qui est en Colombie, ça part d'abord de la pollution du fleuve et donc de cette prise de conscience radicale, totale que la vie n'est plus possible et qu'il faut trouver une manière de défendre les intérêts et les besoins et les valeurs de la rivière pour défendre la vie. Et pas seulement la vie humaine, c'est les populations de poissons, c'est la biodiversité autour du fleuve. Puisque la demande en justice sur l'Atrato, c'était suite à une affaire de pollution dramatique qui a conduit à des populations, notamment indigènes, qui vivaient le long de la rivière, à ne plus pouvoir y vivre. Et donc on voit bien que voilà, quand l'eau est attaquée, la vie n'est plus possible. Quand la vie n'est plus possible, on va chercher des recours juridiques. Et en t'entendant, je me faisais la remarque, mais je me la suis faite souvent en travaillant sur le Parlement de loi. Pourquoi on en vient à la personnalisation juridique des écosystèmes? Parce que, en fait, la définition des choses communes, elle est très belle. On pourrait dire que, disons, dans nos sociétés, si on avait du respect ou un rapport digne aux choses communes, il n'y aurait pas besoin. Parce que, en fait, ce seraient des choses communes qui seraient en bonne santé. Et donc, la vie serait possible. Et c'est d'ailleurs la leçon que nous donnent ces peuples gardiens, peuples sentinelles, qu'ils soient amazoniens ou maoris ou autres. C'est qu'eux nous montrent le chemin de ce qu'est une vie lorsque les choses communes sont respectées. Et en fait, on en vient au bout de notre modernité, un petit peu défaillante. On en vient à la personnalisation juridique des écosystèmes de la manière suivante. Lorsque ces choses communes, la théorie de l'économie politique classique, donc libérale, du 19e siècle, va dire que c'est un bien sans maître. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, on a tendance à... En économie politique, on parle d'externalité. C'est-à-dire qu'en fait, on s'en occupe pas. Les gens s'en servent, en fait, ils en abusent. Parce qu'en fait, ils n'ont pas de respect pour les choses humaines, puisqu'elle appartient vraiment à personne. Et donc, dans la théorie, disons, classique de l'économie politique classique, le seul moment où l'on prend soin des choses, c'est quand elles sont appropriées. Et puis, il y a une autre ironie dans cette histoire, c'est que les choses communes, lorsqu'elles ne sont pas, disons, respectées par celles et ceux qui, en priorité, ont la charge des choses communes, dans nos pays, ce serait l'État, ou ce serait l'État et ses délégations territoriales, les riverains ou les habitants ou les vivants se mettent à se demander mais à qui j'ai recours en fait pour tenir la chose commune, pour tenir à la chose, et quand on ne peut plus se tourner vers l'État ou vers celles et ceux qui ont la charge de la chose commune, l'intérêt général, la République, la res publica, etc., qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là qu'on en vient à se dire, mais qu'est-ce qui se passe si je subjectivise, si je personnalise, si je fais une entité autonome pour que la personne ainsi née puisse se défendre elle-même. Donc, j'en viens à me demander comment je permets à la rivière Atrato de se défendre, et à partir du moment où la rivière Atrato pourra se défendre elle-même, c'est-à-dire contre tout ce qui est défaillant, l'État colombien, les sociétés privées minières qui minent, c'est le cas de le dire, la rivière, les agriculteurs potentiellement qui abusent, etc., du fleuve, je crée cette personnalité et j'espère qu'en donnant l'autonomie juridique à cette rivière, elle va pouvoir se défendre contre toutes ces emprises. Et à partir de là, curieusement, effectivement, en autonomisant, donc c'est vraiment un geste très paradoxal de séparation juridique pour nous réattacher. C'est-à-dire je crée une autonomie de la rivière, mais pour tout d'un coup la faire exister dans une relation. C'est un peu ce que dit Marie-Ange Lhermitte à la fin de son audition. Elle dit, et je pense que c'est partiellement faux, Bruno Latour dirait le contraire, pour qu'il y ait une relation, il faut qu'il y ait un sujet. Je pense qu'on a plein de relations avec les objets. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir... Je pense que tu dirais la même chose. Je pense qu'on peut avoir... On a quotidiennement... On a enfant un rapport à nos peluches. Ou si on n'a pas de peluche, on a enfant des rapports à des objets de la maison, etc. Donc en fait, on sait très bien entretenir de très très bonnes relations avec des objets qui ne sont pas d'ailleurs notre priorité. C'est simple notre propriété, un rapport à un paysage, à un souvenir d'enfance qui nous relie à un paysage, une forme du monde, enfin, etc. Mais il se trouve qu'on en est arrivé à un point assez fou, et ça je crois qu'on serait d'accord avec Sarah là-dessus, qui a fait quand même aussi, je te renvoie à cette critique du subjectivisme généralisé, c'est qu'on en est arrivé à un point fou où la seule manière de faire exister face à nous quelque chose, c'est-à-dire de reconnaître sa présence, c'est de lui permettre de nous répondre en nous disant non. C'est curieux quand même, cette chose-là, de ne pas pouvoir se rapporter à quelque chose avant qu'il y ait une sorte de verticalisation d'une entité qui nous dise. Donc on en est là, j'essaye de voir ce que ça change, de donner des droits de la personnalité juridique, notamment à des rivières. Ouais.
Bonjour.
Bon, ben, je crois que c'est le moment où on peut se servir librement en eau diverses et variées, mais peut-être l'eau d'élixir de vie quand même, qui me paraîtrait important de, si je retiens ce que vous venez de dire, d'en conserver la personnalité, parce que finalement peut-être qu'elle a une forme de personnalité, cette eau, en particulier, peut-être que les autres aussi, mais en tout cas en vous écoutant, je me dis, ah oui, ça donne quand même une autre dimension, qui avait déjà beaucoup de dimensions, cette eau philosophale presque, dont on a parlé tout à l'heure, Saint-Blaise. Voilà, la dégustation est terminée. Cher public, si vous voulez venir déguster, je sais que c'était préféré la bière, mais bon, on ne sait jamais. Merci Sarah. Merci Camille. Et bonne soirée à tous.
T'essayes pas tout alors. Tu pouvais pas finir la carte. Ça, je veux bien.